Vous écoutez France Culture. Hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Second numéro de cette série exceptionnelle consacrée à Pierre Guyotat. Hier, Pierre a évoqué son enfance, la manière dont les événements, dès les débuts de la guerre d'Algérie, avaient envahi sa conscience et son corps. Aujourd'hui, il revient sur cette guerre d'Algérie où il va être appelé. Second numéro de cette émission de Hors champ. Pierre Guyotat, vous aviez évoqué au cours de la première émission à quel point la guerre d'Algérie avait envahi votre conscience. Comment s'est passé le temps entre les premières manifestations en France pour l'indépendance de la guerre d'Algérie et votre incorporation dans l'armée?
Vous savez, la guerre d'Algérie, ça a commencé déjà en 1954. Moi, j'étais au collège et déjà, c'était très animé. Même à 14 ans, on était très
politisé.
Très politisé, c'est pas le mot. On était très intéressé par la politique, par l'histoire, bien entendu. Politisé, le mot est plutôt réservé à une époque ultérieure. Vous voyez, l'époque marxiste, plutôt, je pense. Politisé. Mais oui, on était politisé d'une certaine façon, parce que 14 ans, ça supposait qu'on était né en 40, donc on était forcément politisé, de toute façon. C'était difficile de ne pas l'être, de quelque façon que ce soit. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, l'insurrection sur plusieurs points du territoire de l'Algérie, qui était française, c'était le territoire français, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup trop de gens l'oublient aujourd'hui. C'est comme s'il y avait eu des insurrections dans le Calvados, d'une certaine façon. Parce qu'il y avait eu avant, effectivement, l'émeute et la répression de Sétif, enfin de petite cabille en 45. Mais à cette époque-là, je n'en savais pas grand-chose, évidemment, j'avais 5 ans. Mais évidemment, le 1er novembre 1954, une nouvelle qui fait tous les titres du monde, hein, évidemment, ça frappe. Et tout de suite. Et on était politisé aussi, parce que l'Algérie révélait, en fait, l'Algérie a assez vite révélé, pas tout de suite, a assez vite révélé, chez des gens jeunes aussi, des gens très jeunes, la base même de la politique, tout simplement. C'est-à-dire, on était dans un régime qui était celui de la 4e République, donc fondé en principe par De Gaulle, qui en est parti très vite, parce qu'il a bien... Il a très vite vu que le fameux jeu des partis recommençait. C'était une espèce de corruption politique, pas forcément financière, mais une corruption politique assez galopante déjà, si vous voulez. Donc on était très attentif à ça, voilà, parce que vous savez, un pays où le Premier ministre change tous les trois mois, forcément c'est particulier. Un enfant ne peut que s'intéresser, enfin un adolescent ne peut que s'intéresser à ça, puisque au fond, c'est un jeu, comme on dit, de chaise musicale. C'est très amusant pour un enfant aussi. Même à table, je me souviens, on nous demandait, les grandes personnes nous demandaient à nous, les enfants, à ton avis, quel est celui qui va sortir? En quelque sorte, c'était comme un jeu, si vous voulez. Alors, il y avait un tourniquet. Alors, c'était Félix Gaillard, qui Mollet, etc. C'était toujours les mêmes. Mitterrand, déjà, etc. Donc, Edgar Faure, etc. Et puis alors les plus vieux, ceux qui sont les plus oubliés maintenant, Cueil, etc. Laniel, enfin, bon, tous les bons, quoi. Donc c'est une sorte de jeu. Et le jeu est devenu, évidemment, un peu plus grinçant en 54. Parce qu'il y a eu donc une insurrection très violente, avec évidemment des crimes. Des crimes au départ, des crimes qui ont beaucoup bouleversé, quand même, la conscience nationale, si je peux dire. Les gens étaient déjà hypersensibilisés à l'Algérie, quand même. Parce que d'abord, il y avait des liens extrêmement forts entre les pieds-noirs d'Algérie et puis leurs cousins de France, les lieux où ils revenaient pour les vacances. Il y avait aussi pas mal déjà d'ouvriers algériens qui étaient là, hein, qui étaient pas bien traités, il faut dire. Ils étaient presque oubliés, d'une certaine façon. Hein, oubliés quand ils n'étaient pas, réprimés, c'est après. Ils étaient très mal vus. Ils étaient mal vus parce que c'était en général des montagnards, si vous voulez. Des montagnards, des gens qui étaient mal habiles déjà dans les villes. Qui étaient très forts pour travailler et très courageux, mais que les gens ici voyaient, non pas comme des sauvages, pas du tout, mais comme des espèces de super auvergnats, quoi, si je puis dire, vous voyez. Un peu mal dégrossis, quoi. Un peu trouble, parce que l'islam, c'était ce vieux machin, ce vieux truc de l'islam, qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, ça, on le savait, il y avait toujours un oraf, comme on disait, un oraf qui était dans un village, ou qui passait, ou qui faisait vous voyez, c'était un peu comme les romanichels, quoi. Mais ils étaient plus stables, ils étaient stables. Voilà. Mais je n'étais pas forcément agressé, hein, mais voilà, il y avait différents, de visage, de tout, la langue était perçue comme très rauque, la langue arabe complètement, tellement différente de la langue même que parlaient les gens du cru chez moi. Donc, 1954, et après ça n'a pas cessé, parce que ça a été très vite après, la répression, les nécessités de la répression expliquées par les, plus ou moins bien par les hommes politiques. Une armée qui se forme, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'armée en Algérie. Il y a la police, il y a tout ça, si vous voulez. C'est un enchaînement, beaucoup de terrorisme, énormément de terrorisme, énormément d'attentats. Les attentats, maintenant, qui sont considérés comme le comble de la lâcheté, le comble de l'horreur antidémocratique, maintenant, si vous voulez, c'était monnaie courante à l'époque, monnaie courante. Même si c'était pour la libération d'un peuple, libération d'un peuple du reste dont on peinait beaucoup à comprendre la volonté d'indépendance. Autant les gens en général pouvaient comprendre qu'effectivement il fallait que cette partie de la population algérienne soit mieux traitée, soit plus considérée, mais l'indépendance, c'était pas quelque chose de, sauf dans les cercles un peu plus avisés sur les, au niveau populaire, l'indépendance, pourquoi parce que c'est la France, c'est des départements français. Et puis très vite, finalement, la médiatisation, si vous voulez, des crimes, et évidemment de la terreur, ça c'est évident. On ne médiatise pas, évidemment, la réponse, qui est assez faible au départ, du reste. La réponse est très faible. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des forces de police, il y a des expéditions dans le bled, très peu. Ça devient important... un an plus tard, quoi. Hein, un an plus tard. Et puis le drame, tout de suite, qui monte très très vite. Le drame, et puis tout d'un coup, la peur de perdre l'Algérie. On est en pleine guerre froide aussi. 54, c'est un an après Bandung, la conférence de Bandung, qui voit l'émergence des peuples non alignés. Important comme terme, non alignés. Il n'y a ni un an ni un autre. Le réel, enfin la réalité, c'est qu'en fait... ils sont alignés du côté de Moscou, pour beaucoup, pour la plupart. Moscou est encore considéré, en 54, c'est un an après la mort de Staline seulement, vous vous rendez compte. Donc c'est extrêmement glaçant tout ça, les gens ont peur, non pas que le communisme vienne en France, le Parti communiste est très fort en France à cette époque-là, très très fort encore.
Et c'est considéré, perçu encore comme le parti des résistants, ça perdure dans aussi la mémoire de l'histoire.
Bien sûr, le parti des résistants, donc, il y a son mot à dire dans la vie nationale. Hein, bien entendu, il y a des lois sociales importantes qui sont votées grâce aussi, parce qu'il y a une poussée aussi communiste, etc. Bon, il faut jamais décontextualiser. Et nous, si vous voulez, on est dans ce contexte, on le sait tout ça. La guerre froide, on sait, le coup de Prague, il n'est pas si éloigné. La Hongrie, c'est pas encore là. On a entendu des quantités de choses sur 39-45, les camps se sont libérés, il y a aussi les poilus, survivants sont là, et ils sont pas si vieux que ça. Ils ont, certains ont encore 55-60 ans, ils sont tout à fait présents au milieu de nous, dans les villages, dans les familles, ils racontent tout ça aussi, si vous voulez. Ils jugent même la guerre de 39-45 tout à fait médiocre par rapport à celle qu'ils ont faite en 14-18, si vous voulez. Il y a tout ça qu'il ne faut jamais oublier, ce contexte-là qui est un contexte réel. C'est le réel.
Oui, mais vous êtes, Pierre Biotta, porteur de cette histoire-là, en,
oui,
en symbiose.
Oui, mais on l'est...
Pourquoi, avec cette espèce d'éveil?
Oui, mais on l'est beaucoup tous. On l'est beaucoup tous, parce qu'on me dit toujours maintenant, mais vous étiez d'une famille qui, etc., qui aviez participé, oui. Mais enfin, c'était le cas de beaucoup de gens. Tout le monde, peu ou prou, avait une idée de l'histoire, une idée de ce qui venait de se passer. Vous savez, il y avait quand même des monuments aux morts partout. Les plaques sur les derniers combats de résistants, pour certains peut-être tardifs, mais vous savez, il n'y a pas de tardifs. Hein. Les ouvriers de l'11e heure sont toujours bien accueillis. Et c'est souvent ceux qui payent le prix le plus fort. Car il ne faut pas oublier que on se moque des résistants de la dernière heure. Il y a eu des résistants de la dernière heure qui, eux, se sont... ont bien échappé à tout, de la toute dernière heure. Mais il y a eu une dernière heure qui a été très dangereuse, car quand on était pris, on y passait. Parce que les Allemands étaient extrêmement nerveux, et pour cause. C'est à cette époque-là que dans les camps, on commençait les marches de la mort pour transplanter les déportés d'un endroit qui avait été repris par les Russes vers un autre. Oui. Donc c'est le moment terrible, il ne faut pas... se faire illusion là-dessus.
Ce dont a parlé admirablement Primo Levi avec la trêve.
Bien sûr, et puis tant d'autres. Il y a aussi en France, il y a le pire hiver, un des pires hivers du siècle, fin 45. Il y a la France est exsangue à ce moment-là en 45. Donc les gens réfléchissent, si vous voulez. Les gens réfléchissent. Quand ils n'ont plus rien à manger, plus de quoi se vêtir ou plus de quoi se couvrir, ou se chauffer, ils réfléchissent. On réfléchit à l'histoire beaucoup plus qu'on ne le croit, si vous voulez, aux choses élémentaires. Donc les gens étaient forcément dans le même bain, d'une certaine façon. Et les gens parlaient beaucoup entre eux aussi. Il y avait aussi le règlement de la collaboration, très important. Il y a eu contrairement à ce qu'on dit, il y a eu énormément de procès. Enfin, il y a eu une épuration dont la plupart des historiens étrangers, en principalement, s'accordent à dire qu'elle a été une des plus justes qui soit. Donc elle a été...
Contrairement à l'Allemagne, effectivement.
Oui, elle a été réalisée. Et c'est injuste quand on a dit, comme ça, quand on dit depuis 20 ans, que quand on revient là-dessus, et ce sont des bobards, c'est pas vrai. Il y a eu énormément de procès. Il faut aller y voir, simplement, si vous voulez. Dans les villages, il y avait toujours un collabo qui était mis au banc, etc., qui sortait à peine de chez lui, etc. Donc on savait pourquoi il était dans cet état, si vous voulez. Donc on était vraiment habitué à ça, on était habitué à penser l'histoire en termes forts quand même, si vous voulez.
Et vos parents parlaient politique à la maison?
C'était inévitable. D'abord parce que mon père a fait la politique, non, la politique, il était la politique locale. Mon père était médecin de campagne, donc il a considéré comme un devoir d'être aussi responsable politique pour faire avancer les choses, si vous voulez. Faire avancer les choses d'un point de vue matériel, d'un point de vue économique. Hein. Donc il s'est présenté, il a été élu conseiller général. On lui a même proposé après d'être sénateur, il aurait été sénateur. Il n'a jamais voulu parce qu'il aurait supposé qu'il vienne à Paris un peu. Et donc il ne voulait absolument pas quitter son canton, si vous voulez, là où il travaillait. Là où il travaillait extrêmement dur, jour et nuit. Donc, si vous voulez. Donc on parlait forcément de politique. Ma mère, c'était très différent, parce que ma mère était liée à un passé un peu plus prestigieux, etc., par sa famille, de par ses frères et sœurs, qui avaient été très actifs dans la résistance, du côté de mon père aussi. Mais du côté de mon père, c'était beaucoup plus local, si vous voulez. Ma mère, elle, reliait la politique actuelle à la grande politique d'autrefois, si vous voulez. Elle savait, elle connaissait l'histoire, par son père, je veux dire. Qui était donc notre grand-père, qui lui avait une vie beaucoup plus importante, hein, beaucoup plus élargie, européenne et tout. La question, par exemple, du délitement de l'Empire romain, on l'étudie à la fois en classe, ou à l'école en classe, Et en même temps, j'en entendais parler par ma mère, parce que forcément, la France avait un empire. Donc on réfléchissait à cette grande idée de l'empire. De grands empires s'étaient délités au début du siècle, au début du XXe, ça avait donné l'horreur quand même. L'empire austro-hongrois qui se délite, ça donne Hitler. L'empire russe, ça donne Staline. L'empire ottoman, c'est pas très brillant non plus. Bref, il y avait vraiment une réflexion là-dessus, sur les empires. Qu'est-ce qui vaut mieux, les empires, que les nations, tout ça, etc. Donc on réfléchissait à tout ça. Et ça a été très important, cette réflexion, dans toute la guerre d'Algérie, à tous les niveaux. Au niveau intellectuel, au niveau des historiens, tout ça. Il n'y avait pas forcément d'agression contre l'Algérie, dans le pouvoir, si vous voulez, dans les pouvoirs qui sont succédés. Il y avait une volonté de faire en sorte que les choses se passent mieux, aillent mieux, que la guerre cesse. Il y avait aussi, ce débat. Est-ce qu'il... Même dans un empire déclinant, est-ce qu'on n'est pas mieux que dans une nation nouvelle, plus ou moins isolée, plus ou moins convoitée aussi? À l'époque, c'est très convoité, l'Algérie, quand même. C'est déjà même convoité par l'Amérique, par les États-Unis. Ça commence à cette époque-là, quand même. Mais c'est très convoité, évidemment, par l'Est, par l'Égypte interposée, si vous voulez, par Nasser interposée. La guerre froide est là, il ne faut pas l'oublier. Donc on n'a pas, pour les meilleurs des politiques, on ne peut pas abandonner une population au communisme, au possible communisme, si vous voulez. Donc moi, quand les choses... voilà, je suis là, je suis l'Algérie. Je suis ces événements jusqu'au bout. Et,
donc vous allez à toutes les manifestations, vous souscrivez...
Non, il n'y a rien. Mais là où j'habite, il n'y a pas de manifestation.
Vous lisez les journaux ?
On lit les journaux, on est très jeunes, on se rassemble, on discute, on réfléchit, on fait toutes sortes de trucs dont je ne me souviens plus très bien. Et puis de toute façon, je suis très vite, moi, happé par la chose, à vrai dire. On est très vite... on est aussi concerné parce que déjà...
Vous savez que vous allez être appelé en Algérie.
À partir de 56-57, le contingent est donc raison de plus, si vous voulez, d'être...
C'est votre vie qui est en cause.
C'est votre vie qui est en cause, voilà. Et là, on est obligé d'y aller.
Certains intellectuels ont décidé d'aller dans des hôpitaux psychiatriques
il y a plusieurs choses là-dessus. Oui, mais ça, les hôpitaux psychiatriques, tout le monde a essayé plus ou moins d'échapper aux 2 ans d'Algérie, pas échapper forcément, comme je vous l'ai dit la dernière fois, au fait d'avoir à combattre le peuple algérien, parce que je crois que, bon, ça n'entrait pas tellement en ligne de compte, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Quand on est très jeune, on cherche surtout à passer le moins possible de temps en prison, en quelque sorte. C'était une prison, en quelque sorte, l'armée, si vous voulez. Ça arrête tout, ça arrête les études, ça arrête la carrière... Ça arrête les filles, ça arrête tout, quoi, ça arrête tout, pas d'un seul coup. Des gens qui avaient conscience qui pourraient, en allant en Algérie, avoir à combattre le peuple algérien, ils ont déserté, si vous voulez, ou ils n'y sont pas allés. Les autres, on s'est dit, je me débrouillerai, on débrouillera. Les jeunes, c'est comme ça, on débrouillera. Si on a une morale, on fera pas certaines choses, etc., voilà. C'est comme ça. Beaucoup de gens sont partis comme ça, bien entendu. Puisqu'il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est impossible d'y échapper. Oui. L'hôpital psychiatrique, ça a très peu fonctionné, en fait. Ça a peu fonctionné. Ce qui fonctionnait, c'était évidemment les maladies. Mais ça, c'était pris en compte comme dans toute armée. Moi, j'ai raté de très près, du reste, la réforme, parce que j'étais très myope. Néanmoins, ils avaient besoin même de myope.
Et vous faisiez quoi, alors, en tant que soldat?
Alors,
donc vous
différent.
Avez été incorporé en 1960.
Oui, ça a été très mouvementé tout le temps. C'était une époque mouvementée pour moi, de toute façon.
Dans votre tête?
Dans ma vie, j'étais très mouvementé. J'avais, parce qu'on était à cette époque-là, on était majeur à 21 ans aussi. Avant, on était mineur.
Donc vous étiez mineur.
On était
mineur.
Donc sous l'autorité du père, parce que ma mère était morte. Donc, il y a la mort de ma mère en 58... Voilà, tout ça, j'étais très, très bouleversé, ouais, très bouleversé partout. Donc, je faisais ce que je voulais, ce que je décidais de faire. Donc, je suis parti de chez moi, mineur. t'es recherché et tout, etc. Donc,
j'étais votre père a, oui, a appelé j'étais la déjà, police.
Non, mais mon père m'a fait rechercher par la police et par un détective privé.
Non.
Qui m'a retrouvé. Du reste, j'avais trouvé une chambre pas très loin d'ici, rue Chernovitz, dans le 16e, très haut comme ça. J'avais étudié que je pouvais partir par le toit, parce que, etc. C'est une toute petite chambre. Et un soir, je suis arrivé en bas de chez moi, et il y avait un détective privé qui m'a demandé. Je lui ai dit, vous arrivez trop tard, parce que je viens d'envoyer un télégramme à mon père pour lui dire que, voilà, que je voulais le voir. Pas où j'étais, pour lui dire pas où j'étais.
Et vous avez revu votre père et que vous a-t-il dit ?
Je l'ai revu. Donc voilà, je l'ai revu, puis après, bon, ça a recommencé encore, mais enfin...
Ah, il ne voulait pas vous émanciper.
Non, mais enfin, j'étais émancipé de fait.
Oui, mais il ne voulait pas vous lâcher, quoi.
Il ne voulait pas me lâcher, non. Il y a peut-être des raisons, certainement des raisons de père, que je comprends très bien.
Mais, donc vous étiez déjà clandestin dans ce Paris des années 58-59.
J'étais déjà pas mal clandestin,
59.
Déjà depuis pas mal de temps, déjà dans ma famille et tout, mais enfin bon. Et oui, beaucoup quand même. Donc j'ai fait un an à Paris, un an.
Et là, vous faites quoi dans cette année-là ? Vous suivez des cours ?
J'avais accepté, pour avoir la paix, pour avoir cette émancipation, j'avais accepté de m'inscrire à une école de journalisme qui était fondée et dirigée par Philippe Vianney, justement. Et bon, j'y ai pas beaucoup allé. Et du reste, il n'était pas très content, cet oncle-là. Il n'était pas content du tout. Et il m'a fait beaucoup de scènes, si bien que mon père même a été obligé de me défendre, ce qui était un comble. Je voulais absolument partir, au fond, faire ce service militaire, parce qu'il fallait le faire. Je me suis retrouvé à Grenoble, j'ai fait des classes mouvementées aussi, dès les premiers jours, parce que je me suis vraiment... Je me suis physiquement rébellé, quoi.
Pourtant, vous êtes une forte nature.
Oui, mais j'étais très nerveux, j'avais vraiment des nerfs, et là, j'ai décidé de tout casser. C'était très sévère, l'armée, à cette époque-là, très dur. Très, très dur. Et j'ai, comme on dit, dégusté après. Parce que je me suis rebellé. Je suis sorti du rang. Un jour, on montait, je ne sais pas où, dans l'escalier. Je suis sorti du rang, puis j'ai dit réveillez-vous, c'est un mauvais rêve, etc. C'est un mauvais rêve, il faut se réveiller. Etc. Je suis descendu au bord de compagnie, j'ai tout cassé. Les machines à écrire, j'ai fait les encriers, les papiers, des chiens et tout ça, pendant quand même 10 bonnes minutes avant qu'ils aient pu me maîtriser. J'étais complètement hors de moi, c'est le cas de le dire. Donc là, j'ai été sanglé, machin, j'ai été emmené à l'infirmerie, j'ai été battu, mais ils m'ont battu avec des sangles, pendant au moins, je sais pas, une heure, ils m'ont battu. Mais je résistais toujours, et puis après, bon, j'ai été mis au cachot, etc., pendant plusieurs jours. Donc j'étais déjà bien vu. J'étais déjà bien vu. Après l'Algérie, vous savez, c'était particulier parce qu'on pouvait faire les EOR, c'est-à-dire l'école d'officier de réserve. Donc échapper pendant un temps à l'Algérie. Et donc j'ai totalement refusé, je ne voulais pas du tout ni être officier ni sous-officier. Et je suis donc parti. C'était l'hiver 60, c'est ça. 61, je veux dire. J'étais à ce moment-là, j'étais majeur à ce moment-là. J'ai eu une majorité.
Au début, donc,
au début.
Quand vous étiez
là, j'ai fait plusieurs choses que je raconte dans les textes, du reste. Plusieurs choses, et puis là, voilà, ben, ça a été le quotidien habituel. J'ai fait des choses. Comme j'étais dans le génie, on a fait beaucoup de chantiers. Donc j'ai connu l'expérience du chantier. J'ai fait des chantiers pendant plusieurs mois. J'ai fait des routes, des ponts. On était sous la tente, protégés évidemment. Il y avait des tours de garde, il y avait des half-tracks. L'artillerie tout autour, etc. On était vraiment dans la cambrousse. Donc j'ai fait connaissance avec l'Algérie comme ça aussi, d'une façon très, très intime, si vous voulez, très nocturne, très très nocturne. Parce que j'ai monté beaucoup de gardes aussi. Après les choses, bon, là, ça a continué. On a fait aussi, quand il y a eu les premières révoltes d'officiers, hein, ça a commencé en 61, il y a eu des choses étonnantes. Je raconterai un jour des séances étonnantes. Où les officiers étaient en train de passer finalement à la rébellion et essayaient de nous convaincre qu'il fallait nous joindre à eux, si vous voulez. Et on était quand même quelques-uns à être conscients du droit, si vous voulez, du droit de la République, de tout ça. Ils nous disaient, vous avez à choisir entre De Gaulle et entre De Gaulle et je ne sais pas.
Mais et non, les factieux généraux.
Mais nous, ah non, pas, parce que pour eux, nous, non, c'était pas des factieux pour eux. Je ne dis pas tous les officiers, attention. Les officiers qui venaient, ils venaient d'Algérie en général, c'est la Légion en général, beaucoup de la Légion, ils venaient, ils essayaient d'amener les officiers du coin, du cru, d'officiers, et le contingent surtout, parce que les militaires ne sont rien sans le contingent. Nous l'avons appris très très vite, ça, et nous en sommes servis, bien entendu. Et nous on répondait, mais non, ce n'est pas nous avons à choisir entre le droit et la force. Le droit et la force. Et ça, c'est un langage que beaucoup de militaires connaissaient, mais avaient oublié avec l'Indochine, vous savez. Là, en effet, donc j'ai redécouvert ça aussi. L'opposition entre le droit et la force. Ça ne vient pas naturellement, ça, vous savez. C'est pas à l'école, oui, dans les petits les combats, les choses comme ça. Mais enfin, au niveau national, quand vous êtes dans une armée qui vous dépouille de toute individualité, de tout droit, ce qui était le cas à l'époque, on était comme des esclaves. Je l'ai souvent dit, je l'ai répété.
Vous l'avez
écrit. Je le maintiens, vraiment. Donc, un esclave qui dit non, ce qui se passe, c'est une lutte, c'est une rébellion de la force contre le droit. Oui, c'est déjà pas mal. Vous voyez, ces grandes séances très intéressantes, du reste. Parce que les officiers n'étaient pas des idiots, c'est des gens qui avaient quelquefois des lettres, même. Il y avait les officiers rebelles, ils avaient des lettres, ils pouvaient invoquer même des précédents, citer des phrases, des choses comme ça, vous voyez.
Et quand vous dites « nous », Pierre Guyotard...
Ben nous, c'était toute une
vous
bande
avez l'impression
de
d'être nous. Agrégé à une communauté oui. dont vous êtes oui. partie constituante,
ben, la communauté,
de ne pas être un seul corps, mais d'être tout un corps.
Non, mais la communauté, j'étais habitué. Par la pension, déjà. La famille, on était nombreux, c'était déjà une communauté. La pension, pendant très longtemps, très jeune. Et après, j'arrive là-dedans, c'était un monde qui m'était très familier. Hein. Et un monde qui a ses valeurs, hein, et qui est extrêmement agréable aussi, qui peut être agréable aussi, la communauté. Moi, je reste très solidaire des camarades que j'avais à l'époque, même des réputés pires. Je ne sais pas très bien. C'est une solidarité, pas une solidarité approuvante, vous voyez ce que je veux dire, bien entendu. C'était ma génération. C'est une génération qu'on a beaucoup méprisée aussi, dans le monde intellectuel aussi. Donc on a prêté attention au moment du manifeste des 121, hein, pour l'inciter à considérer que certains grands intellectuels avaient raison de leur demander de désobéir. C'est facile à dire quand vous êtes. C'était très courageux de faire ça, hein, cela dit, la pétition, parce que beaucoup ont perdu beaucoup de choses. La pétition des 121.
Et vous l'avez su en Algérie que cette pétition circulait,
oui,
enfin, ce moi, manifeste des 121.
Moi, j'en ai pas eu, mais moi, je l'ai pas vu passer. J'étais pas là, moi. J'étais absent pendant deux ans, de près de deux ans et demi, quand même. Vous voyez, donc.
Mais vous n'aviez aucune nouvelle
très peu.
De ce qui se passait dans les cénacles intellectuels parisiens
et du
soutien.
Non, j'avais des très petites nouvelles par des lettres que m'envoyait Jean Cayrol, qui m'avait publié, dont j'avais reçu le contrat, du reste. Le lendemain de ma révolte, du reste, à Grenoble, du reste, ou quelques jours après.
Alors ce premier texte, vous l'écrivez quand ?
Avant le service militaire.
Et vous l'avez envoyé donc ?
Je l'ai écrit en 59, je l'ai refait en 60, et je l'ai envoyé.
Par la poste, à quelqu'un que vous connaissiez ?
Non, je l'ai porté aux éditions du Seuil, directement, pour Jean Cayrol. Et quelques jours après, il m'a répondu, venez, etc., voilà. Et j'ai reçu le contrat étant à l'armée, avec d'autres lettres aussi. C'était très amusant parce que j'ai été un petit peu sauvé, si je puis dire, de cette histoire de révolte, de cette rébellion, parce qu'ils avaient évidemment, comme ils font d'habitude, ils avaient lu tous mes textes qui étaient dans mon casier et tout mon courrier tout frais, si je peux dire.
Ils ouvraient vos lettres.
Ils ont tout ouvert. Et je connaissais une fille à cette époque-là, que j'aimais beaucoup, qui était extrêmement appétissante et tout. Et elle me disait, elle m'envoyait la lettre classique, je t'aime bien, mais enfin bref, c'est des lettres d'adolescents presque. Donc ils ont cru, ça m'avait secoué, mais ils ont cru que c'était ça qui avait déclenché ma révolte dans l'escalier, si vous voulez.
C'était très bien. Vous étiez amoureux.
Donc c'était très bien pour eux, parce que J'ai donc été considéré comme quelqu'un qui prenait les choses à cœur, si vous voulez. Donc il fallait faire attention, mais ils ont trouvé cette raison-là. Ce n'était pas cette raison, bien entendu. Mais
ouais, ça les a rassurés,
ils se sont accrochés à ce moment-là. C'est drôle, non ?
Donc ce premier texte s'intitule « Sur un cheval ».
Sur un cheval, voilà.
Il est publié en 61 aux éditions du Seuil.
Oui, mais il est déjà fait, il est déjà...
Il est déjà reconnu.
Oui.
Il y a des critiques qui,
oui, je suis très bien.
Qui le remarquent et qui écrivent sur vous, mais vous, par définition, vous ne pouvez pas venir en parler puisque vous êtes appelé en Algérie.
Non, je suis là-bas, je suis là-bas.
Et... Mais l'écriture, au moment où vous vivez cette guerre d'Algérie, qui va être suivie par des événements... encore plus dramatique, notamment en 62, quand vous allez vous impliquer dans une cause politique.
Si vous voulez... Oui, mais vous savez, c'est.
Et que vous allez être arrêté. Est-ce que vous prenez des notes sur ce que vous vivez ? Parce que c'est quand même un des socles d'écriture aussi de votre habitacle d'écrivain, cette guerre d'Algérie. Alors, j'arrive pas à comprendre comment l'écriture vient. Est-ce qu'elle vient très longtemps après ? On parlera plus tard, par exemple, de formation ou de progéniture. Ou est-ce qu'elle vient pendant ? Est-ce qu'elle s'entrepose pendant longtemps ? Ou est-ce que vous en écrivez pendant, dans des petits carnets, dans des petits journaux ? Comment ça se passe à l'intérieur de votre fabrique ?
À l'époque, je ne prends pas de notes, à cette époque-là. Je ne prends pas de notes, j'ai tout dans ma tête. Je fais peut-être quelques petits poèmes encore, parce que je fais aussi des poèmes à cette époque-là. J'en fais plus beaucoup parce que j'ai déjà des proses qui m'ont été publiées. Et puis qu'il faut, il faut agir. Il y a la guerre, il y a le quotidien de la guerre. On va aussi beaucoup, comme il y a des révoltes à Alger. On va beaucoup à Alger, si vous voulez. Il y a une espèce de tour, si vous voulez, des compagnies pour aller faire des patrouilles à Alger, réparer des choses qui sont détruites parce qu'Alger c'est très très mouvementé, c'est très 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 violent, si vous voulez. Il y a c'est pas les barricades, non, c'est après. C'est le putsch des généraux, hein, le Carteron, le fameux Carteron. Hein. Donc il faut être là.
Vous y avez cru, ça, cette insurrection des généraux ?
Oh non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas un seul moment.
Parce qu'à Paris, beaucoup de gens y ont cru. Hein.
Oui, non, mais nous, on était sur place et on n'y croyait pas du tout. Et c'était peut-être un peu la méthode Coué. On se disait, ils tiendront pas parce que nous, on ne pourra pas tenir avec eux. C'est pas possible. Parce qu'ils vont prolonger la guerre. Nous, on voulait absolument pas que ça se termine le plus tôt. C'est possible, bien entendu. Pour tout le monde, du reste. Et puis on commence à s'attacher au pays. Il y a ça aussi, c'est un pays très nouveau, avec des gens très particuliers, en guerre, le pays est en guerre. Et voir un pays en guerre, c'est une expérience formidable, parce que vous êtes dedans, vous voyez quand même les marques de la guerre. Même
formidable, si pourquoi ?
Non, mais c'est formidable parce qu'on est... d'avoir eu cette expérience-là, si vous voulez, parce que c'est pas si courant que ça. Vous voyez, les générations actuelles, Ça fait combien de temps qu'elles sont sans guerre ? Je ne dis pas qu'il faut être avec guerre, bien entendu. Mais c'était tout de même... Moi, j'ai décidé, quand je suis parti, de faire le maximum, de regarder... C'était ce que me disait Jean Cayrol dans ses lettres. Profiter pour tout voir, tout... Il ne me disait pas du tout de déserter. Lui, intellectuel de gauche, ancien déporté, grand déporté et tout...
résistant.
Et homme par ailleurs délicieux, par ailleurs aussi, que j'aimais beaucoup. Et très bon... Très, très, très bon écrivain et très bon détecteur de talent.
Immense éditeur.
Hein. Et homme très charmant, très modeste, que j'aimais beaucoup, moi. Et donc, il me disait, regardez partout, etc., observez. Déjà, des conseils de vieil écrivain, jeune écrivain, si je peux dire. Mais
tout ça reste dans votre mémoire, ou dans vos arrière-mémoires, plus exactement.
Alors, vous savez, c'est très difficile de savoir... On veut aujourd'hui que les gens qui reviennent de quelque chose sachent tout, puissent tout dire tout de suite. Oui, on voit à quel point les gens ont eu du mal à parler après des expériences évidemment aussi atroces que celles des camps, par exemple. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et même après 14-18, ça a été long. Parce que, oui, il n'y a que dans les journaux qu'on croit que ça se fait très vite, tout ça. C'est pas vrai. L'homme n'est pas une mécanique. Il faut mûrir les choses. Et il y a une chose aussi, c'est quand vous revenez d'une guerre, c'est une guerre. C'est une guerre maintenant.
Enfin, on ne l'appelait pas guerre, on appelait ça les événements.
Oui, mais nous, on savait que c'était une guerre. Nous, on le savait que c'était une guerre. On n'était pas idiots, on le savait bien que c'était une guerre. Voyons. Je veux dire, pourquoi, du reste, que c'était une guerre ? C'était une guerre. Parce qu'il y avait le couvre-feu, j'ai fait énormément de gardes, moi, donc j'ai vu tout ce que j'ai pu voir la nuit. Quand vous êtes dans un mirador à dizaines de mètres, 20 mètres au-dessus. Au-dessus, 20 mètres, 20, 25 mètres même quelquefois. Ce n'étaient pas toujours les mêmes, Mirador. Que vous avez un spot, vous êtes maître de la nuit presque, si vous voulez. Vous avez un truc, puis... Bon, moi j'éclairais plutôt le ciel ou les montagnes en face, si vous voulez, qui était pas très loin de la mer, j'étais en Grande-Kabylie. Mais donc vous réfléchissez, vous voyez les villages en dessous, où il se passe des choses la nuit, bien entendu. Hein, vous avez des petites lumières qui passent, vous entendez les chiens qui aboient, c'est le signe qu'il y a des gens qui passent, les collecteurs de fonds, etc., bien entendu, les collecteurs de fonds de Fellen. Ou des gens qui viennent voir un jeune maquisard qui vient voir ses parents, par exemple, ou voir sa fiancée, ou son... Vous voyez, c'est ça. Et on se met à imaginer des tas de choses qui sont réelles, c'est très simple, l'imagination, au fond. C'est très simple. Quand vous êtes en haut, vous êtes au-dessus, vous êtes vous-même, vous n'êtes pas Dieu le Père, parce que vous êtes vous-même un asservi. Un asservi qui est surveillé, quand même, si vous voulez, par en bas. Après, vous descendez, vous dormez un peu dans les capotes pourries, vous buvez un café sur-sucré, sur-bromuré, etc., parce qu'on mettait du bromure dans tous les aliments, pour éviter...
Pour pas que vous ayez de sexualité
Oui, c'est ça, pour réduire notre sexualité, disons, qui n'était pas réduite, pour la réduire. Tout était bromuré, le vin, etc. Donc, un café très très lourd, après vous remontez dans la nuit, etc., c'est tout à fait, c'est très étonnant tout ça, quand on le vit d'une façon très sensible, très sensitive.
Oui, on a l'impression que vous l'avez vécu de manière...
Bien sûr, j'ai vécu beaucoup.
Sauvage et poétique en même temps.
Oui, mais en même temps poétique, oui.
Enfin, poétique, non mais non, que vous y rude. Perceviez des éléments pour oui. votre écriture future. Il y a beaucoup de choses
oui,
que vous avez vécues peut-être
tout,
en Algérie qui
mais
ont contribué
pas du tout
à
agi, j'ai pas du tout agi comme ça, j'ai regardé parce que ça m'était naturel. Et puis après, ça s'est transformé en, si vous voulez. Mais je suis pas j'ai pas du tout fait comme, comme on dit que les écrivains font, il faut qu'ils aient vécu une chose pour qu'ils la racontent. Non. Moi, je laissais les choses venir. Je savais pas du tout ce que j'allais écrire. Et j'ai écrit du reste, quand j'attendais le, parce que j'étais donc sous-officier, pas sous-officier, j'étais pas sous-officier, mais j'avais toutes les fonctions du sous-officier de transmission. Donc quand j'attendais l'officier dans la jeep de commandement, j'écrivais au printemps, on était très bien, on était très très couverts quand même, et j'ai fait comme ça le prologue d'Ashby, qui n'a rien à voir avec l'Algérie, rien du tout, un prologue très, vous savez, très faulknérien, très limpide, très très civilisé, rien à voir avec le lieu dans lequel j'étais, et je l'ai gardé tel que. Donc, en 61-62, j'ai fait ça, si vous voulez.
Publié en 64.
C'est un petit prologue. Et c'est publié en 64. Mais vous dire que c'est là, comment dire, j'étais pas du tout conscient que je rapportais quelque chose, pas du tout. Parce qu'il se passe une chose, c'est quand vous revenez d'un événement comme celui-là, surtout à la fin, c'était passé très mal, à la fois très mal et très bien pour moi.
Parce que vous avez été arrêté.
J'ai été arrêté, inculpé, emprisonné,
en
au 62. Secret. Au secret,
pour complicité 62, de désertion,
tout, au moment
la
de
totale.
L'armée, la totale, j'ai fait donc 3 mois de cachot souterrain, etc. Après j'ai été muté dans une unité où il y avait une section disciplinaire, là j'étais avec des droits communs, il y avait quelques politiques mais qui n'étaient pas dans ma chambrée, et moi j'étais dans une chambrée de droits communs. Donc
Ça vous fait sourire.
La série continuait, quoi. Oui, parce que je n'ai pas été malheureux, là. C'était dans un très bel endroit, au bord du Chélif. C'était l'été 62. C'était la fin.
Et vous le saviez.
Mais c'était la fin. L'indépendance s'est faite le premier. Elle a été fêtée le 5. Nous y sommes allés, nous. Le fête d'indépendance à Orléansville, qui s'appelle maintenant, qui s'est appelé El Asnam, puis maintenant qui s'appelle Chlef, je crois.
Ça s'est passé comment, la fête d'indépendance?
Moi, j'ai vu ça, j'ai fait des photos. J'y suis allé même en moitié militaire, moitié civil.
Oui, donc la population algérienne ne vous détestait pas.
Mais non, parce qu'ils savaient, ils savaient très bien. Les gens étaient très au courant. Les gens du coin savaient très bien. Ils connaissaient l'identité de tous les soldats. Parfaitement. Et ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait. Moi, j'étais arrivé quand même un mois avant, oui, dans une Jeep, avec un PM braqué sur moi et tout. Tout ça, c'était parfaitement... Ça se savait. On avait aussi des supplétifs dans notre compagnie, des harkis en quelque sorte. Des harkis, qui ont été après, hélas, qui ont été égorgés, malgré qu'on leur ait dit de ne pas nous quitter.
Pouvoir les protéger, mais ils ne vous ont pas cru.
Ça fait partie des choses terribles dont on se souvient. Si vous voulez, vous vivez tout le temps des choses extraordinaires, des choses... Vous voyez, je ne peux pas vous raconter ça d'un seul coup, mais... Donc c'était une fin de guerre extraordinaire, enfin très, comment dirais-je, oui, extraordinaire, vraiment. D'abord parce qu'on savait qu'on allait être libérés. Moi, j'avais des doutes, parce que comme j'avais été emprisonné, j'étais très suspect, je pensais que j'allais faire du durable, comme on dit.
Du durable, ça veut dire qu'on reste en prison.
Qu'on reste dans la prison. Même si c'est dans une unité. Et là, c'était impensable qu'on reste une journée de plus dans ce machin, si vous voulez. C'est pas possible. Vous savez, on est très jeune, hein, on est très vigoureux. Hein. Et alors, on a fait il y a eu l'indépendance, on a vécu des nuits étonnantes, dramatiques, que je raconte dans un texte qui va paraître bientôt dans la NRF.
Mais, dramatique parce qu'il y avait justement des mésalliances entre... à l'intérieur du peuple algérien.
Parce que ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que tout est apparu au grand jour, si vous voulez. Les présumés collaborateurs, les présumés, etc. Et puis beaucoup de gens au milieu qui ne savaient pas. Exactement comme en France, si vous voulez. Des gens qui attendaient ou qui étaient de cœur, évidemment, avec la résistance. Comme beaucoup de Français avaient été très tôt de cœur avec la résistance, il faut bien le dire. Mais entre être de cœur... Et le réaliser, c'est difficile, parce que, bon, vous avez une famille, vous avez un boulot, et tout ça, quitter tout ça, c'est très compliqué. Demander à tout le monde d'être un... il ne faut pas rêver, comme on dit. Hein. Il ne faut pas rêver. Et surtout, il ne faut pas rêver pour les autres. Voir ce qu'on aurait pu faire soi. Hein. Donc, c'était pareil, là. C'était pareil. C'était un peuple qui était déchiré, aussi. Plus déchiré, je pense... Non, presque autant. Presque autant déchiré que le peuple français... d'une certaine façon, parce qu'il n'y avait pas de Gaulle, il n'y avait pas cette grande figure ou ces grandes figures de la résistance, même si elles étaient importantes pour le peuple algérien, ils savaient bien que Ben Bella et les autres n'étaient pas des gens de taille, si vous voulez, Ferhat Abbas, non comme ça, oui, mais Ferhat Abbas avait été mis de côté, tout le malheur de l'Algérie est venu de là, c'est qu'il n'y a pas eu l'installation d'une démocratie. D'une démocratie. Ça aurait été une démocratie de notables, évidemment. Les gens n'en voulaient pas, aussi. Oui. Ils voulaient une démocratie jeune, une démocratie de... Voilà. Et puis, c'était pas l'époque. À l'époque, c'était quand même l'époque marxiste, l'époque socialiste, l'époque collectiviste et tout, l'époque d'autogestion. On ne voulait plus de la démocratie de notables, qui avait un peu existé en Algérie. Il y avait aussi beaucoup de députés d'origine berbère ou arabe, bien entendu. Mais... Les gens n'en voulaient pas, ils voulaient quelque chose qui était presque impossible à ce moment-là, et ça a été dramatique. Nous, on le sentait bien, hein. On le sentait bien. Et nous, on avait une envie, une seule envie, c'était que la France et l'Europe foutent le camp de ce pays.
Donc vous n'avez pas maintenant, assisté je ne dirai à la plus, naissance d'une nation.
Donc je ne dirai plus la même chose maintenant, bien entendu. Mais on n'était pas non plus... on ne se réjouissait pas du tout non plus du malheur des pieds noirs, car il y a eu un malheur au moment des pieds noirs. Parce que les petits ont été obligés de partir parce que les gros partaient aussi, si vous voulez. C'est l'éternel drame. Et ça a été un drame.
Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Philippe Thibault, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier. Bonne soirée à l'écoute de France Culture, à 23h30 du jour au lendemain à la Weinstein, mais tout de suite les passagers de la nuit, Thomas Baumgartner.